Donc, je vais dans cet exposé présenter quelques résultats d'une recherche que j'ai menée et qui s'appuie sur une approche comparatiste de la construction de la professionnalité enseignante en lycée professionnel. Et cette recherche prend appui sur les professeurs de PS confrontés à la mise en œuvre d'une nouvelle prescription. Et là, en l'occurrence, c'est l'arrivée de nouvelles modalités du contrôle en cours de formation, CCF, que j'appellerai tout au long de l'exposé CCF. Dans cette population enseignante particulière, j'ai observé deux groupes distincts. Un groupe d'enseignants chevronnés, donc des enseignants expérimentés, et un groupe d'enseignants débutants, d'enseignants novices. Dans un premier temps, je vais préciser mon hypothèse de travail et la méthodologie que j'ai employée. Ensuite, j'aborderai deux points que j'ai identifiés comme différenciateurs dans la construction de la professionnalité chez ces enseignants. Tout d'abord, la construction de la bonne distance. Et d'autre part, l'esprit, ce que j'ai appelé l'esprit et la règle, c'est-à-dire c'est la façon d'aborder la prescription et de la traduire de la vivre sur le terrain, si vous voulez. Et dans un dernier temps, je vous proposerai une typologie d'une nouvelle professionnalité, effectivement qu'on pourra discuter ensemble, qui est à moduler et qui ensuite pourrait peut s'élargir à d'autres enseignants de lycée professionnel. Alors, nous avons déjà vu que le processus de modernisation de la voie professionnelle se concrétise par une parution importante de nouveaux textes, de nouvelles prescriptions et de nouvelles modalités d'évaluation, notamment le CCF, qui est constitué d'épreuves disséminées tout au long de la formation et qui est à la charge de l'enseignant au cours de son enseignement, dans sa charge de travail. C'est-à-dire qu'on observe un déplacement du lieu de l'évaluation qui se redéploie dans l'établissement. Alors, pourquoi me suis-je intéressée aux professeurs de PS ? C'est une catégorie d'enseignants qui offre la particularité de n'être issu ni d'une formation, ni d'un concours de recrutement qui les prépare ou qui les recrute à enseigner en lycée professionnel. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent en lycée professionnel, suite à une mutation. Donc ils sont certifiés ou ils sont agrégés, ils sont nommés en lycée professionnel. Donc effectivement, ils se retrouvent dans un établissement, dans un environnement qu'ils connaissent peu, sauf lorsque ça a été abordé lors de la formation, ce qui est souvent juste un survol. Voilà, alors le CCF en éducation physique. Alors pourquoi le CCF ? En éducation physique, le CCF est utilisé depuis 1983 comme modalité aux différents examens, aussi bien dans la voie générale que dans la voie technologique ou professionnelle. Ces modalités d'évaluation ont été renouvelées, ont été affinées. Et en 2005, il y a un nouveau texte qui est sorti et qui a profondément changé ses modalités, c'est-à-dire que le texte définissait les épreuves que les élèves allaient devoir passer, et les enseignants devaient mettre en œuvre ces épreuves précises et clairement définies avec des critères d'évaluation déterminés nationalement. C'est-à-dire qu'on voit arriver une uniformisation des épreuves. On passe des épreuves qui étaient très locales, avec des barèmes très locaux, qui étaient internes à chaque établissement, à des modalités qui s'inscrivent plus sur une logique civique, où tout le monde passe la même épreuve avec les mêmes critères d'évaluation. Et en même temps que cette uniformisation de la procédure d'évaluation, il y a aussi toute une logique, tout un mouvement de scolarisation dans la discipline une scolarisation de l'EPS dans la voie professionnelle, qui est arrivée bien après la scolarisation au niveau du collège ou au niveau du lycée. C'est-à-dire que la discipline prend tous les attributs scolaires, programmes, par exemple. Je ne vais pas m'étendre sur la question. Alors, mon hypothèse de travail reposait sur l'idée que l'arrivée de ce nouveau TEC, donc de ces nouvelles modalités d'évaluation, allait entraîner des modifications dans l'activité des enseignants et notamment dans la façon d'aborder le cadre de l'épreuve et la façon de noter les élèves. C'est-à-dire que les enseignants sont amenés à reconstruire un cadre, de nouvelles règles de travail, de nouveaux gestes professionnels. Et du point de vue du chercheur, l'épreuve de CCF constitue donc ce que j'ai appelé donc une belle accroche pour accéder au travail réel en situation d'évaluation. Je suis rentrée donc par la situation d'évaluation et après je suis remontée jusqu'aux façons de faire et au contenu d'apprentissage lors du cycle d'apprentissage. Voilà le motif, donc le choix du CCF réside dans l'accès au travail réel. Ensuite, donc ce CCF va modifier les pratiques. Et nous savons aussi, de par tous les travaux sur la clinique de l'activité, qu'il n'y a pas d'un côté le travail prescrit, c'est-à-dire les textes qui sont publiés au BO pour les enseignants, ou les textes ou les orientations qui sont données par les inspecteurs ou par le chef d'établissement. C'est toutes ces orientations que j'appellerais des prescriptions. Donc, alors, on le sait qu'il n'y a pas d'un côté le travail prescrit et de l'autre le travail réel, c'est-à-dire que l'enseignant, inévitablement, il prend en compte ces différents éléments dans le quotidien de son activité. Et toujours, je vais me reposer sur les termes de Clos, ce que les professionnels partagent pour exercer dans un même milieu constitue le genre social du métier. Et lorsque les enseignants discutent, échangent et qu'ils construisent des règles communes, ils partagent des obligations. Et ce qui m'intéressé dans mon travail, c'était d'aller questionner les arbitrages que les enseignants font pour se mettre d'accord, pour arriver à évaluer les élèves, j'allais dire, de la même façon, pour être le plus juste possible par rapport à l'ensemble des élèves. Alors, le choix pour aller enquêter justement, pour prendre en compte la grande diversité et la complexité des lycées professionnels, j'ai choisi une approche qualitative que j'ai faite en deux temps. Le premier temps, j'ai réalisé des enquêtes ethnographiques et j'ai réalisé 5 monographies d'établissement qui m'a permis, donc ces 5 monographies m'ont permis d'appréhender la complexité des lycées professionnels et notamment m'a permis aussi de trouver un terrain d'enquête où j'ai pu faire un travail particulier et c'est ce travail particulier que je vais vous présenter. Donc j'ai trouvé un terrain d'enquête où les enseignants ont accepté que je vienne avec une caméra et que je les filme en situation réelle d'évaluation. Et donc cette partie-là de mon travail m'a servi ensuite à aller interroger, à aller travailler avec les néo-enseignants, sachant que les néo-enseignants, bon nombre de recherches le montrent, ils éprouvent des difficultés dans les premières années de l'exercice du métier, difficultés qui sont augmentées dès lors qu'ils exercent dans un milieu dit difficile, et souvent les lycées professionnels sont apparentés à des milieux dits difficiles. Voilà. Alors je vais vous présenter ce que j'ai fait auprès d'enseignants expérimentés. Je suis allée les filmer lors d'une situation in vivo avec les élèves, avec des vrais élèves. Je vais vous présenter un court extrait du travail que j'ai fait. parce que c'était surtout un outil de travail, d'analyse. C'est pas un outil de formation en tant que tel, mais il peut y servir. Il peut servir d'outil de formation. Alors, j'ai, en m'inspirant de la clinique de l'activité et aménagé donc pour mes conditions d'enquête, j'ai construit j'ai fait une autoconfrontation. Donc, je vais vous présenter, et si tout marche bien, je l'ai essayé avant d'entrer dans la salle. Ça devrait être visionnable par tous. L'autoconfrontation, elle consiste en un premier film de l'enseignant ou de n'importe quel travailleur pendant son activité. C'est filmé. Ensuite, dans ce cas-là, j'ai sélectionné certains éléments, parce que la situation d'évaluation a duré 2 heures. Donc j'ai filmé les 2 heures, après j'ai recoupé, j'ai fait un montage, et c'est ensuite ce montage-là que j'ai présenté à l'enseignant expérimenté. Alors je vais vous présenter la première phase. L'enseignant avec ses élèves. Alors, je ne suis pas cinéaste, donc la qualité des images c'est pas de haute qualité, mais c'est le contenu qui est intéressant. Alors, la première partie, vous voyez le début de la situation de la séquence de CCF, c'est-à-dire que c'est le début du cours. L'enseignant donne des consignes. Alors, logiquement, on les entend, les consignes. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que les élèves sont très proches de l'enseignant. Alors là, il questionne les enseignants et il fait un rappel des contenus d'enseignement, qu'est-ce qu'ils doivent travailler. Voilà. Ensuite, il descend. Alors, ensuite, je suis retournée voir cet enseignant. On s'est installé dans un bureau au calme et il s'est regardé en train d'agir. Et soit je le questionnais en lui disant « Explique-moi ce que tu fais, explique-moi. » Il n'y a pas de son, Amada. « Explique-moi ce que tu es en train de faire pour que je comprenne ton activité. » Et alors là, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, il a regardé l'extrait qu'on vient de voir et il m'explique ce qu'il fait avec les élèves. Tu vois, quand j'appuie sur...
De façon à avoir un relationnel très direct. Ouais. Aussi direct d'ailleurs que je peux...
Donc, je vous remets cet extrait. Alors, qui est un court extrait de l'autoconfrontation. Ce sont des élèves de CAP,
Vous revoyez les éléments techniques importants pour vous permettre d'être en rupture sur les changes. Vous entendez rapidement qui me les rappelle, ces éléments techniques. Tu m'en donnes un. Tu sais pas. Le drive.
Relever main basse.
Relever main basse, c'est fait quoi filer. Jusqu'à main haute, amorti, fond de terrain, snatch. Et puis, lock. Voilà.
Je veux dire, effectivement, dans toutes mes séances, les amène d'ailleurs à venir, je les invite à venir près de moi, de façon à avoir un relationnel très direct. Ouais. Aussi direct d'ailleurs que je peux intervenir au travers d'une remarque. Je peux quelquefois avoir une remarque relativement cassante de la part d'un observateur. Mais bon, je connais mes élèves, ils le prennent pas mal, ceci étant, ils savent qu'il y a des règles bien précises, que l'on doit fonctionner selon ses règles et qu'il n'y en a pas d'autres.
Voilà, ça y est, vous l'avez enfin entendu. Alors, lorsqu'on regarde cette vidéo, effectivement, on voit des élèves, on voit un enseignant qui vraisemblablement est dans la grande maîtrise du déroulement du cours, enfin de la séquence d'évaluation. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que dans son activité, il y a une activité à la fois de maintien de l'ordre, il y a une activité de rappel de consignes, et il y a aussi une activité d'organisation de ce qui va se dérouler après. Donc on se rend compte qu'il y a un enchevêtrement des différentes activités de l'enseignant. Alors là, je vous fais une analyse très rapide sur un extrait d'activité très court. mais c'est ce qui se déroule tout au long de la séquence d'évaluation. Voilà. Alors ça, pourquoi j'ai choisi cet enseignant en particulier? Parce que cet enseignant, il recouvre toutes les caractéristiques d'un enseignant qui vit son métier sur le mode de la vocation. C'est-à-dire qu'il est sur le régime vocationnel de l'activité. Donc là, j'ai repris un terme de Nathalie Hennisch, qui c'est quelqu'un donc qui donne de sa personne, donne de son temps et qui n'hésite pas à en donner et plus et du temps et de voilà. Donc cet enseignant, j'allais dire, c'est un exemple typique, le parangon de l'enseignant voué à son métier. Ça, c'est mon premier échantillon de donc d'enseignant. Deuxième échantillon, c'est les néo-enseignants. Alors, comment j'ai défini ce groupe d'enseignants? Je me suis appuyée sur les travaux d'Huberman, qui s'est intéressé à la vie professionnelle des enseignants et qui découpe tout le long de la carrière en plusieurs séquences, pardon, et qui définit les novices, les enseignants débutants, jusqu'à 5 ans d'ancienneté. Alors, j'ai rencontré la difficulté de trouver à la fois des enseignants qui avaient moins de 5 ans d'ancienneté et à la fois des enseignants qui étaient nommés en lycée professionnel. Alors, j'en ai trouvé 11 qui ont accepté de participer à ce travail. Et comment j'ai travaillé avec eux? Après un premier entretien exploratoire pour avoir quelques données sur leur itinéraire professionnel, sur leur formation itinéraire professionnel, je leur ai projeté l'ensemble de ce montage, de cette autoconfrontation qui dure une trentaine de minutes. Et eux, à chaque fois qu'ils le souhaitaient, ils arrêtaient le déroulement du film, ou chaque fois je les sollicitais en leur demandant de réagir sur ce qu'ils voyaient. Et ensuite, je les ai questionnés sur la façon qu'ils avaient, eux, de mettre en place cette épreuve de CCF. Voilà. Alors, ce pan de recueil de données, donc, j'ai enregistrer ces entretiens, ils ont été transcrits et anonymés. Alors, comme ils ont été anonymés, je vous écouterai au cours de mon exposé quelques extraits audio, mais on a voilé les voix, donc un peu masqué les voix, donc c'est vrai que c'est pas toujours très agréable, mais bon, il n'y aura pas beaucoup d'enregistrements que je vais passer. Alors, ce qui est intéressant de constater, avant d'arriver sur les résultats que j'ai observés, c'est que les enseignants expérimentés ont aux yeux des novices l'expérience qui est la leur. Même si ces derniers pensent qu'on peut faire autrement, les enseignants expérimentés ont le mérite d'avoir exercé, d'avoir été là. Et l'analyse des néo-enseignants n'aboutit pas à une déqualification des aînés, car ils ne trahissent pas l'idéal du métier. Et l'idéal du métier en lycée professionnel, ce sont des objectifs éducatifs avec des visées d'émancipation et de démocratisation. Le métier est alors perçu dans sa diversité d'exercices. Voilà, j'ai trouvé que c'était quand même tous les novices, lorsqu'ils observent les enseignants expérimentés, sont dans un franc respect. Voilà. Alors, je vous propose d'avancer sur les résultats. Voilà. Alors, premier résultat auquel je suis arrivée, c'est la construction de la bonne distance. Alors, la construction de la bonne distance, je l'ai repérée au cours de 3 temps pédagogiques. Alors, lorsqu'il y a un face-à-face pédagogique avec l'ensemble du groupe classe, il y a une autre distance qui est construite différemment lorsque le face-à-face est un face-à-face individuel ou avec un groupe restreint. Et il y a la construction d'une autre distance qui est qui est lors du face-à-face évaluatif. Alors, l'exercice du métier en lycée professionnel nécessite de construire à nouveau la distance fonctionnelle avec les élèves, dont les rapports à l'école, et je crois que nous l'avons vu au cours des échanges de hier et de ce matin, ont changé, ne sont plus tout à fait les rapports des collégiens, ils ne sont pas tout à fait non plus les mêmes rapports que les lycéens de la voie générale. Donc les néo-enseignants sont en demeure de transformer les jeunes en élèves, et pour faire tenir des situations qui ne tiennent plus d'elles-mêmes, l'intervention du maître nécessite donc de construire cette distance. Alors, la première distance est celle du face-à-face collectif. Alors, c'est le face-à-face collectif, j'allais dire, le moment clé, c'est celui que je vous ai fait voir tout à l'heure, le début de la leçon. Donc, le début de la leçon porte en lui toutes les caractéristiques des regroupements que les enseignants font avec les élèves tout au long de la leçon, d'une leçon, que ce soit une leçon d'apprentissage ou une séance d'évaluation. Donc, c'est le moment type du regroupement, donc de toute la classe auprès de l'enseignant. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait une différence. Les enseignants expérimentés privilégiaient la proximité avec les élèves, alors que, différemment, les novices construisaient une distance avec les élèves. Alors, je vais essayer de vous passer un extrait de d'un enseignant débutant, donc d'un novice. Alors, si le son est très mauvais, j'arrêterai. Donc, c'est Stéphane, donc c'est un prénom, tous les prénoms ont été anonymés.
Je l'ai vu faire avec ses élèves proches, vraiment très proches même. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux. Surtout sur ce genre de. Sur un début de séance, en fait. Moi, j'ai plus tendance. Quand je les prends comme ça d'un point de vue collectif pour leur expliquer ce que j'attends d'eux pendant la séance. J'aime bien les avoir autour, mais pas aussi proche. Pas aussi proche que ça. Là, c'est. J'ai pas l'impression de pouvoir voir tout le monde, en fait, là-dessus. S'ils sont trop près. Sur le grand groupe, j'aime bien voir tout le monde, en fait. Sur les ce qui se passe, j'aime bien voir ce qui se passe, quoi. Mais sur des grands groupes, non, mais ce serait plus loin. Non, c'est vrai que le jour du CCF, je parle pour moi, ma collègue, ouais. C'est pas tout à fait comme ça, en général, ils le savent dès le début de la séance. Même avant, généralement, je leur dis que l'échauffement, il sera en autonomie. Alors, ce qu'il a redit, en petit groupe.
Ce que ce néo-enseignant explique, c'est que lui, il préfère se situer à distance des élèves. Cette distance, lui, une distance spatiale, mais cette distance lui permet de tenir deux choses, de tenir à la fois la forme scolaire, c'est-à-dire d'avoir en supervision, de gérer les élèves, et tout à la fois de diffuser les contenus pédagogiques, c'est-à-dire qu'il est dans la double activité, tenir le cadre et distribution des contenus d'enseignement. Voilà, et alors je vous ai fait écouter Stéphane, c'était de mauvaise qualité, mais cette idée de distance se retrouve chez tous les novices que j'ai interviewés. Et ce qu'il est intéressant d'observer, que cette distance, elle est construite comme une sorte de prolongement de l'être professionnel, un territoire qui leur permette aussi, comme ils sont en train d'apprendre le métier, une sorte d'espace tampon qui leur permette de gérer leurs émotions, parce que on sait que les émotions viennent parasiter le déroulement programmé de l'activité lorsqu'on est dans une nouvelle activité. Alors logiquement, je reviens sur mon et si ça marche bien. Alors si vous voyez ce qui est écrit au tableau, je ne vais pas vous passer l'extrait audio parce qu'il fait un peu mal aux oreilles aussi, mais Pierre dit à peu près la même chose, mais lui, cette distance, elle est marquée par du matériel, par des outils. Alors, est-ce que vous je vais vous lire. Il me faut une table, un tableau. Alors, pour le coup, quand je n'ai pas ça, c'est-à-dire lorsqu'il va à l'extérieur sur un stade, il emmène avec lui une table de pique-nique et un tableau blanc. Il reconstruit la forme scolaire d'une salle que vous connaissez, et lui, il la reconstruit à l'extérieur, il reconstruit la forme scolaire. Voilà, donc ça, c'est le recueil de données. Alors, ils construisent une distance matérielle, mais aussi, ils construisent une distance par rapport au contenu, d'enseignement. Alors, Stéphane, là, nous explique qu'il a construit des fiches outils qu'il distribue à ses élèves et qui sont faciles d'accès, qui sont avec soit des dessins, soit des mots-clés, soit des phrases-clés qui permettent de donner le contenu d'apprentissage aux élèves, c'est-à-dire qu'il met les contenus à distance de l'enseignant. Voilà, donc la distance des grands rassemblements, enfin du face-à-face collectif, elle se matérialise par une distance spatiale et par une distance par rapport au contenu. Autre élément, le face-à-face individuel. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble. Donc, c'est un extrait d'un échauffement, logiquement, ça devrait marcher cette fois-ci. Voilà. Donc, c'est très court. L'enseignant est en noir.
Alors, je reviens sur un point de règlement là avec Mathieu, qui au préalable, sous la forme d'échauffement, ou même quelquefois au travers des sets, c'est pour ça que j'interviens, pour éviter qu'ils soient en faute, j'interviens au niveau du service.
Donc, il explique comment il intervient individuellement auprès de chacun de ses élèves. Alors, la réaction des novices, ils se retrouvent complètement dans cette relation, dans le face-à-face individuel ou en petit groupe. Ils sont dans la proximité avec les élèves et rien ne différencie les enseignants chevronnés des enseignants novices dans cette relation très proximale, de proximité. Ensuite, le dernier temps que j'ai observé et qui est fondamentalement différent entre les enseignants expérimentés et les enseignants novices, c'est la construction de la distance lors du face-à-face évaluatif. Alors, je vous propose d'observer François en cours de CCF. Lorsqu'on regarde cet extrait vidéo, on se rend compte qu'il y a des règles de métier ou des règles que tous les enseignants de lycée professionnel partagent. Et en l'occurrence, par exemple, une règle de métier, ça serait de ne jamais lâcher les élèves, les accompagner jusqu'au bout, par exemple, dans l'évaluation. Ce que je vous dis, c'est une analyse, c'est ce qui ressort des analyses que j'ai faites pour ces enseignants-là. Donc après, on pourra les discuter ensuite, les règles de métier. Mais la règle de métier chez cet enseignant, c'est accompagner les élèves jusque pendant l'évaluation. Et là, on se rend compte que pendant le temps d'évaluation, il est à la fois dans l'évaluation, vous avez vu qu'il note sur une feuille, et à la fois, Il donne des conseils aux élèves, il les accompagne dans le, lorsqu'ils remplissent leurs fiches. Voilà. Et si vous arrivez à lire ce qui est derrière moi, la réaction d'une enseignante novice, elle explique que elle ne fait absolument pas, elle ne s'organise pas du tout de la même façon. Elle et ses collègues, ils prennent une chaise, ils se mettent à distance. Elle observe cet enseignant, elle dit « il change vraiment de statut, mais malgré tout, il continue à leur donner des questions. » Alors, elle dit « questions », mais ce serait plutôt « conseil », même en cours de CCF. Ça, nous, on se l'est interdit, c'est-à-dire qu'on y va encore plus loin. Le jour du CCF, on prend carrément une table, on s'assoit à un endroit, on ne les fait pas tourner sur les terrains. Donc, en fait, ils jouent leur tournoi sans savoir vraiment, entre guillemets, à quel moment on les évalue, puisque nos têtes tournent. Donc, ils sont en situation d'examen pendant les 2 heures, pendant toute la durée du CCF. Voilà. Donc, on voit qu'il y a deux modalités, deux activités différentes. Il y a des gestes qui sont complètement différents de l'un à l'autre. Je vais passer la diapo suivante. Alors, ce qu'il est intéressant de constater, tous les novices, tous les enseignants, les nouveaux enseignants sont sur la construction de cette distance que j'ai appelée distance institutionnalisée, c'est-à-dire qu'on donne de la grandeur, on donne de l'officiel à ce temps qui est l'épreuve de CCF. Et je suis allée regarder par quels moyens ils construisaient cette distance. Alors, il y a un placement à l'écart et en supervision. Donc là, on l'a déjà vu dans la première partie, dans le face-à-face collectif et pédagogique. Ensuite, il y a un déroulement diffus sur toute la durée de l'épreuve. Il y a une organisation rationnelle de l'espace, c'est-à-dire que l'organisation, tout est organisé à l'avance en fonction des épreuves. S'il y a un groupe d'élèves qui passe et un groupe d'élèves qui attend et un groupe d'élèves qui est organisateur, etc., tout est prévu, organisé. Et d'autre part, il y a la construction d'une attitude neutre de l'enseignant. L'attitude neutre, elle passe par la suspension des conseils. Alors, comme le temps passe, je ne sais pas. Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a? Voilà. Donc là, c'est un extrait d'entretien. Je ne vous agresserai pas en vous le faisant écouter. C'est-à-dire qu'il y a une attitude donc la plus silencieuse et la plus solennelle possible. Un autre élément aussi que j'ai retrouvé parmi les enseignants novices, c'est la contractualisation. Il y a sous la forme d'un support écrit. Alors Stéphane, donc cet enseignant novice, nous explique que le contrat, il est gravé dans la pierre et il est donné aux élèves, il est affiché. Alors je n'ai pas d'autres extraits, mais notre enseignant, tout à l'heure, l'enseignant novice Pierre, qui se transportait avec sa table et son tableau, il a toutes ses pinces, tout son matériel, et toutes ces données-là liées aux normes, aux règles de l'évaluation sont affichées et sont distribuées aux élèves. Elles sont données à voir aux élèves. Voilà. Portées à la connaissance des élèves. Alors, pour résumer, vous devez avoir les trois contextes d'évaluation, les trois contextes qui donnent lieu à la construction de trois distances différenciées selon les groupes professionnels. Alors, la distance qui est au milieu, la distance proximale lors des groupes restreints, elle permet une communication personnalisée avec les élèves. Elle est utilisée de façon privilégiée par les enseignants expérimentés qui ont recours aussi bien en début de leçon que pendant les rassemblements et tout au long de la séquence d'évaluation, alors que les novices utilisent cette distance uniquement pour des remédiations des conseils individuels. La distance construite et appropriée à une communication collective est fortement mobilisée par les néo-enseignants qui ont recours en début de leçon et à chaque regroupement d'élèves. Ensuite, la colonne de droite, là, sur l'épreuve de CCF, la distance construite et institutionnalisée est mise en place par tous les niveaux enseignants et elle est mise en œuvre de façon programmée lors de la passation des épreuves de CCF, alors que les expérimentés la mobilisent pour marquer le début de l'épreuve. Et ensuite, il y a une sorte de va-et-vient permanent entre la distance et la proximité qui floute un petit peu les postures et du coup qui entraîne une certaine ambiguïté dans la posture de l'enseignant auprès des élèves. La construction de la bonne distance participe donc de la détermination d'un territoire fonctionnel. Sa constance et sa reproduction relèveraient du domaine de la construction de la culture professionnelle, du geste professionnel et donc de la professionnalité. La professionnalité impose d'occuper des statuts, donc des positions spatiales différentes. Dans le modèle vocationnel des enseignants expérimentés, le pivot de l'enseignement se fait davantage autour de la personne, soit dans des pédagogies chaleureuses, de proximité, soit dans les pédagogies plus fermes. L'enseignant voué au métier s'appuie sur son art de manier les outils, de manier l'espace qui l'entoure pour donner une dimension officielle. À l'inverse, la distance est construite, ce qui induit qu'elle a été pensée et qu'elle a été anticipée. Et dans ce cas, la distance n'est pas tant par rapport à la personne, mais par rapport au référentiel de travail, c'est-à-dire que c'est un temps d'administration de consignes, de soutien, de remédiation ou d'évaluation. Donc l'aspect important de la professionnalité serait alors de savoir conjuguer les différentes distances selon les contextes. Ainsi, ces règles font partie de ce que j'appellerais, enfin je l'ai repris à d'autres auteurs, la grammaire professionnelle du dispositif pédagogique, des règles contextuelles de gestion de l'espace qui contribuent à la compréhension du dispositif. Je vais, 10 minutes, je vais passer au deuxième point que je voulais aborder, c'est la façon de traduire le texte. Alors, j'ai appelé ça l'esprit et la règle, c'est-à-dire la construction d'une éthique professionnelle. Dans un monde où l'instauration de la forme scolaire, donc particulièrement en LP, est problématique, et c'est ce que Bautier et Rayou ont déjà montré dans les collèges de la périphérie, les néo-enseignants mobilisent des façons de faire particulières lorsqu'ils s'installent dans la posture d'examinateur. Ils organisent un dispositif qui leur permet de bien les distinguer de leur posture d'enseignant habituel, et notamment, ils travaillent avec les règles, et c'est donc sur ces règles que je vais intervenir. Ils travaillent avec les règles pour que celles-ci ne que se confondent pas avec l'examinateur. Alors, d'un côté, on a des enseignants qui travaillent dans l'esprit du texte, et de l'autre, on a des enseignants qui recherche une application à la lettre du texte. Alors, comment les néo-enseignants travaillent dans l'esprit du texte ? Donc, ils travaillent sur les règles. Alors, Noémie nous explique dans l'extrait que vous avez peut-être pu lire, travaille sur l'explicitation des règles. Alors, explicitation des règles. D'une part scolaire, c'est-à-dire que lorsqu'on est élève, on a des règles à respecter, mais aussi des règles de notation. Alors, Noémie nous explique, donc les règles, les élèves, ils jouent le jeu. Enfin, ils viennent au cours d'avant parce qu'ils savent que la grille, on la présente, on la prépare. Il n'y en a aucun qui a déboulé juste le jour du CCF. Il joue le jeu scolaire parce qu'il y a tout un travail. Alors, précision, en EPS, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres disciplines, mais en EPS, les élèves sont parfois absents pendant tout le cours et ils viennent le jour de l'évaluation pour se faire évaluer. Parce que s'ils sont absents, voilà, on leur a expliqué, donc, et après ils s'étonnent. Je ferme la parenthèse. Alors, en s'appuyant sur la logique de l'intérêt scolaire, Noémie, donc la novice, enrôle les élèves qui viennent en cours pour s'approprier les règles de notation. Ils peuvent ainsi développer des stratégies scolaires pour obtenir la meilleure note possible. Ce travail d'explicitation est à considérer comme un nouveau pan du métier. La compréhension des critères ne va pas de soi. Elle demande une traduction scolaire pour acquérir sa légitimité. Donc la transparence et la légitimité des critères d'évaluation mettent de côté le hasard et les affects. Les élèves ont entre leurs mains les règles du jeu et c'est à eux de les manipuler, de les jouer. Donc ils sont dans une stratégie scolaire pour obtenir la meilleure note possible. Deuxième façon de travailler sur les règles et d'arriver à organiser le jour du CCF, il y a une planification connue de tous. Alors Pierre, il explique que le CCF, ce n'est pas du contrôle continu, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve, un jour, une heure, et que ça, c'est déterminant, et que lui, il y met de la solennité. Alors, ce qu'il entend par solennité, c'est il y a un ordre de passage qui est bien annoncé à l'avance, il y a une heure de départ de l'épreuve. C'est-à-dire que il y a tout un travail, donc il anticipe et il y a une planification qui est connue des élèves à l'avance et qui est donnée aux élèves à l'avance. Préra, donc c'est un auteur qui a travaillé sur l'éthique professionnelle, décrit une lente érosion de la légitimité traditionnelle de l'école qui ne doit plus faire l'économie d'une information et d'une explication. Cet auteur parle de légitimité fonctionnelle de l'école. Et lorsqu'on voit les néo-enseignants qui ont la volonté de préparer les élèves à l'épreuve en rendant explicites les critères et en dévoilant l'organisation à l'avance, on peut dire qu'on peut considérer que tout ce travail-là, c'est une nouvelle règle du métier qui vise à redonner de la légitimité à l'école. Pour reprendre, bon là je reprends les propos de Préra. Et le dernier point pour en termes de développement de règles pour travailler dans l'esprit du texte, c'est le renforcement des attributs scolaires, des attributs officiels. Alors là c'est un cas extrême, je vous le livre, mais il n'y en avait qu'un parmi l'ensemble des novices. Noémie, elle est dans un lycée professionnel, hein, on y est vraiment, hein, fait distribuer, elle a délégué à la vie scolaire la distribution des convocations à l'épreuve et les élèves, le jour du CCF, arrivent avec leur convoque et leur pièce d'identité, comme elle l'exprime ici. Ce qui fait que, dans un certain sens, elle se dégage de tout un pan d'activité qui est lié à l'organisation de l'épreuve. Et du coup, elle peut, mettre toute son énergie professionnelle dans ce qui relève donc dans le rôle de l'examinateur. Voilà. Donc, ces exemples de travail sur les règles sont élaborés en vue de renforcer la forme scolaire. Et grâce à la construction de règles qui ne sont pas imposées ni données par le texte officiel, mais construites à partir des besoins estimés des élèves ou du contexte d'enseignement, le dispositif est ainsi organisé dans l'esprit du texte. Donc c'est ce que j'ai appelé l'esprit du texte, sorte d'esprit scolaire visant à repréciser le métier d'élève. Alors là, je vais aller un petit peu plus loin dans la métaphore, mais... De l'esprit. Donc cette démarche rejette une vision applicationniste du texte, parce que le texte, il dit ce qu'il y a à faire, mais pas comment il faut le faire. Pour en avoir une approche plus englobante, ces novices sont dans l'esprit du texte. Ils contribuent ainsi à réapprendre les règles du jeu scolaire, comme Noémie tout à l'heure a parlé des règles du jeu scolaire, en enrôlant les élèves, et c'est là où je vais pour que l'esprit scolaire s'incarne aussi dans les élèves. C'était la fin de la métaphore, et on y croit. Voilà, alors, ce que je vous ai présenté ici se décline avec des variantes, avec des styles différents, selon les novices, avec des marquages plus ou moins forts, selon les novices. Alors, un dernier mot, parce que le temps tourne et je voudrais conclure. Je vais simplement préciser que toute cette organisation, cette construction de règles autour de la mise en œuvre du CCF, c'est tout un habillage qui lui donne une dimension officielle. Participe, c'est la construction de gestes professionnels lorsqu'on est dans donne du sens donc à l'activité professionnelle. Et les novices, lorsqu'ils construisent toutes ces règles, ça leur permet d'avoir des outils d'évaluation qui ne sont pas tout à fait de même nature que les enseignants expérimentés. Ils ont des outils d'évaluation qui sont plus pragmatiques. Ils ont une notation plus qualitative, alors que les enseignants expérimentés sont plus sur du quantitatif. Alors, si vous lisez les extraits des néos qui s'affichent derrière moi, vous voyez qu'ils travaillent avec des items, des mots-clés, et que ces outils ambulatoires, ils ont un outillage ambulatoire, j'allais dire des grilles embarquées, qui leur permet de d'évaluer assez rapidement. À la fin de l'épreuve, ils attribuent une note à l'élève. Alors que tout ce qui relève du quantitatif nécessite un travail à la maison. Il faut compter et évaluer, faire les totaux dans chaque critère. C'est ce que fait, si vous vous rappelez, ce que faisait l'enseignant lorsque je voulais présenter la vidéo. Vous aviez un enseignant qui avait des feuilles. Donc il y avait une feuille individuelle pour chaque élève, avec des s'il y avait 5 critères évalués, donc il avait 5 tableaux et il mettait des petits bâtons, puis après il comptait les bâtons pour faire. Voilà, donc c'est ce que j'appelle la notation quantifiée, quoi. Alors, je vous propose une typologie d'enseignants novices. Alors, ne regardez pas la colonne du milieu qui est liée à l'investissement dans les collectifs de travail, parce que je ne l'ai pas abordée, mais je pourrais l'aborder dans un atelier. Donc, vous avez un enseignant, Pierre, qui est hyper communicant, qui a beaucoup d'outils et qui matérialise beaucoup de choses. Et lui, moi, je parle de l'esprit du texte. Lui, il parle de manteau noir, c'est-à-dire que les élèves, il faut qu'il les prépare en rentrant dans ce manteau noir. Donc, il prépare ses élèves à enfiler ce manteau noir ce jour-là. Vous avez une autre enseignante, donc Noémie, qui est, j'ai marqué en dessous, exigence institutionnalisée, parce que c'est vrai qu'elle est très rigoureuse, elle anticipe beaucoup, et c'est elle qui donne des attributs officiels et qui a des outils très pragmatiques. Je vais descendre. En bas, vous avez Marine, que j'ai appelée la suiveuse appliquée, c'est-à-dire que dans son contexte d'enseignement, elle met en place tous ces éléments, sauf que la distance, elle est affichée. Elle dit aux élèves, vous vous placez ici ou vous vous placez là, et elle est construite, mais elle n'est pas plus matérialisée, ni elle ne répète pas systématiquement. Et de notre côté, il y a une construction d'un cadre pour faire tenir le cadre scolaire, mais le cadrage est plus faible que par exemple Stéphane, que j'ai appelé l'humaniste converti, qui effectivement, lui, arrivé en lycée professionnel, il avait envie, c'est un humaniste, il voulait sauver tous les élèves. Et finalement, il s'est rendu compte que en étant trop proche des élèves, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, donc, je ne vous présenterai pas son extrait, mais il y a un extrait d'entretien qui est absolument très parlant. Il dit finalement, les textes et les barèmes et le critère, je m'y tiens et je construis. Et c'est lui qui a, donc Stéphane, c'est celui qui a écrit le contrat qui est gravé dans la pierre. Voilà, donc pour qu'elle ait, et du coup ça lui permet, cette construction de règles de métier et de gestes, ça leur permet à ces néo-enseignants de se distancier, de s'installer dans le statut d'examinateur, enseignant-examinateur, et du coup ça leur permet de se, j'allais dire, de s'économiser d'un point de vue personnel, quoi. Ils arrivent à dissocier les deux postures. Enfin, c'est ce qui les aide. Alors, je ne dis pas qu'ils arrivent. Voilà, c'est une construction. Alors, pour ouvrir le débat, ce que je vous ai montré là, un accès au travail réel, moi je suis rentrée par le CCF, par une nouvelle prescription, mais j'imagine qu'on pourrait réutiliser cette démarche pour accompagner les élèves à faire de la recherche de stage, l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire reconstruire des gestes professionnels, parce que l'enseignant est un professionnel dans un cadre particulier qui est le cadre scolaire. Voilà, donc c'est une question que je vous renvoie. Voilà, j'en ai terminé.